Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
À 19h, c'est l'heure. Ravi de vous retrouver. Nous sommes avec les mousquetaires ce soir. On commence d'abord avec Simon Guillain et l'info du soir. Les infos du soir.
Bonsoir, chère Christine, et bonsoir à tous. La cause du décès du petit Émile reste toujours inexpliquée. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence s'est donc exprimé cet après-midi. Hier, des vêtements de l'enfant ont été retrouvés à 150 mètres du lieu où ont été découverts les ossements du petit Émile. Aucune hypothèse n'est donc pour le moment écartée par les enquêteurs. Au Proche-Orient, Israël reconnaît une frappe non intentionnelle sur la bande de Gaza. 7 humanitaires d'une ONG américaine ont été tués lors de ce bombardement. Plusieurs pays et organisations condamnent ce raid et certains demandent des explications immédiates à Israël. Et puis, un jeune homme de 12 ans a ouvert le feu ce matin dans son école au nord d'Helsinki en Finlande. Un élève de l'établissement scolaire a été tué et 2 autres enfants ont été grièvement blessés. L'arrestation du très jeune suspect s'est déroulée dans le calme. Il était en possession d'une arme à feu, cher Christian.
Merci beaucoup Simon Guillain. Et au sommaire ce soir, pour la première fois depuis la découverte des ossements du petit Émile, le procureur de la République d'Aix-en-Provence s'est exprimé il y a quelques instants sur CNews. Aucun traumatisme antémortem à ce stade n'a pu être décelé. On ne peut toujours pas connaître à l'heure qu'il est l'origine de la mort du petit garçon. Les eaux ont été longtemps exposées aux intempéries. Les investigations se poursuivent. L'édito de Mathieu Bocoté. Rantigny, cette petite ville de l'Oise, est sous le choc. Près d'une semaine après la mort de Shannon, 13 ans, personne n'aurait pu imaginer que le drame qu'a vécu cette jeune adolescente ait lieu là, à côté d'eux. Shannon a été violée le 6 mars et a succombé à ses atroces blessures mercredi dernier. Tout le monde attend les résultats d'une autopsie qui doit avoir lieu aujourd'hui. Les habitants crient face au silence qui entoure ce drame, crient à la justice, crient à l'incompréhension. L'horreur, la consternation, ne passons pas sous silence ces atrocités. L'analyse de Dimitri Pavlenko. Alors que CNews a été la première chaîne info ex aequo en mars, alors qu'une commission d'enquête en cours voudrait remettre en question la fréquence de la chaîne info, force est de constater que les critiques pleuvent, j'avoue, et les journalistes de CNews également avoir du mal, personnellement, à reconnaître dans le portrait qu'il en est fait à l'extérieur, à reconnaître la chaîne dans laquelle je travaille. Le dernier article en date présenterait cette chaîne comme une fabrique de la haine. Personnellement, je ne me reconnais vraiment pas dans cette description, donc je me permets d'oser le dire et de demander aussi à Marc Menant de nous donner son avis ce soir. Tout cela est infâme pour la rédaction, mais aussi pour vous. Vous êtes 8 millions à nous regarder tous les jours. On en parle avec Marc Menant. L'affaire du petit Émile, je le disais, qui a disparu le 8 juillet 2023, bouleverse la France ce soir. Tout le monde veut que le coupable, s'il y en a un, soit retrouvé. Tout le monde veut que la justice soit faite. Tout le monde veut comprendre ce qui s'est réellement passé et que la famille puisse, d'une façon ou d'une autre, trouver un apaisement. Au-delà de la tristesse, pourquoi cette affaire gêne? Pourquoi se sent-on si proche et si concerné? Le décryptage de Charlotte Dornelas. Et puis alors que beaucoup de classes ferment dans le secteur public, elles sont nombreuses à ouvrir et même à construire des nouveaux bâtiments dans le secteur privé. Comme si ce qui ne marche plus dans le public fonctionne encore dans le privé et attire de plus en plus de monde. Mais cela ne plaît pas à tous. Visiblement, 2 députés, un Renaissance, un LFI, ont présenté un rapport parlementaire pointant du doigt le financement public à ces établissements privés sous contrat et notamment catholiques. Quand l'école publique déraille, faut-il faire tomber le dernier bastion du privé? L'édito de Mathieu Bocoté. Une heure avec nos mousquetaires. On commente, on décrypte, on analyse. Et c'est maintenant. Ravi de vous retrouver. D'abord, le mystère reste entier après la découverte des ossements du petit Émile. Le procureur de la République s'est exprimé il y a quelques instants sur CNews pour la première fois depuis la découverte des ossements. 3 hypothèses, l'accident, la chute, l'homicide volontaire, involontaire. Je vous propose d'écouter un extrait du procureur de la République.
Les premières analyses du crâne ont permis de révéler les informations suivantes. Le crâne présente de petites fractures et des fissures post-mortem. Aucun traumatisme ante-mortem n'a été observé. Le crâne présente des traces de morsures, probablement causées par un ou des animaux. Une maxillaire est absente, sans que l'on puisse savoir aujourd'hui si cette maxillaire s'est détachée naturellement ou sous la forme d'une traction, sous la force d'une traction, pardon. L'aspect des os et des dépôts sur ces os permettent d'affirmer qu'ils n'ont pas été enfouis et qu'ils ont été exposés longtemps aux variations météorologiques et aux intempéries. L'enquête va se poursuivre avec la même intensité. Elle se poursuit en ce moment sur le terrain car les fouilles ne sont pas terminées. Elles se poursuivront probablement demain sur ce terrain. Elles vont se poursuivre sur le plan criminalistique car les éléments retrouvés n'ont pas fini d'être analysés. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre pour expliquer la disparition puis la mort de l'enfant Émile.
Mathieu Bocoté, l'histoire du petit Émile vient donc de ressurgir dans l'actualité de la plus triste manière. Pourquoi cette histoire nous choque à ce point? Pourquoi le traitement médiatique nous choque à ce point?
Oui, je vous avouerai, dans le premier cas, ça ne serait pas nous choque, mais nous blesse profondément, nous atteint intimement. Pour ce qui est du traitement médiatique, vous avez tout à fait raison, et je vais concentrer mon édito sur ce thème, parce que j'ai l'impression en ce moment d'appartenir à un milieu qui pratique le cannibalisme médiatique, c'est-à-dire qui s'empare d'une existence dont on sous le signe d'un sort absolument tragique, et qui, alors qu'on ne sait rien de plus aujourd'hui, le système dans son ensemble commente, produit du commentaire sans qu'on ne sache rien, tout simplement parce que, et on s'empare d'une existence alors qu'on nous les parents nous demandent de la plus grande discrétion, de la plus grande décence dans les circonstances, le système ne peut s'empêcher de traiter cette information sur le mode de la saturation médiatique. Donc, je reviens, le point premier, effectivement, c'est une histoire universelle, tout simplement, une histoire vraie depuis la nuit des temps, la perte d'un enfant. Je veux dire, d'aussi loin qu'on se rappelle dans la mémoire des hommes, dans la mémoire des civilisations, la perte d'un enfant était la chose la plus tragique qui soit pour des parents, pour une famille. Et je pense qu'en ces matières, toutes les civilisations, toutes les cultures, tous les peuples, toutes les nations, toutes les tribus comprennent la douleur infinie. Autant il est naturel un jour dans la vie de perdre ses parents, c'est pas agréable, hein? Mais on s'y attend. Perdre ses parents, c'est normal un jour. Autant on comprend qu'il est possible de perdre un frère, de perdre une sœur, de perdre un ami. Ça fait partie de la vie. Autant le cerveau humain n'est pas programmé pour la possibilité de la perte d'un enfant. Et de ce point de vue, dans cette histoire s'ajoute la part de mystère. La part de mystère, c'est-à-dire jusqu'à il y a quelques jours, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Et en fait, jusqu'à encore là, on ne sait toujours pas ce qui est arrivé. Mais jusqu'à il y a quelques... Donc, avant-hier, les parents ne savaient pas s'il était encore vivant, s'il était mort. Donc, à ce moment, on a une capacité d'identification totale au sort des parents. Tout le monde se dit, mais comment réagirais-je si je ne savais pas ce qui arrive à mon enfant, s'il était suspendu comme ça dans un vide? On est tous touchés, d'ailleurs, par les histoires d'enlèvement, où après 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, on se place dans la tête des parents en se disant, mais... Et s'il existait encore quelque part, s'il n'était pas mort, si un jour il y a la possibilité d'une rencontre en ce monde et non pas dans l'autre, pour ceux qui y croient. Donc, l'histoire a une charge universelle absolue. C'est une histoire intime, c'est une histoire tragique, mais c'est une histoire qui n'a aucune, pour l'instant, signification politique, sociologique, culturelle, philosophique assurément. Mais et là, ce que l'on voit, j'y reviendrai dans un instant, c'est qu'il y a la tentation presque de plaquer une signification sociologique et culturelle à une histoire qui, pour l'instant, je le dis, n'en a pas. Nous sommes simplement devant le tragique au sens premier de l'existence, c'est-à-dire le fait qu'il nous arrive d'être privés des nôtres, ceux que nous aimons le plus. Alors là, pourquoi je dis que je vais être critique envers le système médiatique dans les circonstances? Premièrement, il ne faut pas l'oublier, les parents nous ont demandé, j'y reviendrai aussi, s'il vous plaît... Ne nous contactez pas, ne nous dérangez pas, priez s'il vous plaît, ayez un moment de recueillement, si vous ne croyez pas en l'autre monde, ayez la décence de savoir que nous y croyons, nous avons besoin de ce moment de recueillement. Mais le système médiatique décide alors de s'emparer de ça. Et là, un effet de saturation. C'est assez fascinant. Donc, dès lors, le mot Émile revient, et ainsi de suite. On devine, j'insiste, le traumatisme des parents. Mais surtout, on est là à la recherche d'informations nouvelles qui justifieraient une telle mobilisation médiatique. Or, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui au terme de cette conférence de presse? Qu'il n'y a pas d'informations nouvelles. Fondamentalement, oui, quelques éléments, mais on n'est pas, la formule la plus importante n'est pas d'hypothèse privilégiée. Mais pas d'hypothèse privilégiée, je le traduis pour tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'en sait fichtrement rien. On n'en sait absolument rien. On ne sait toujours pas, sinon que nous savons, ce qui n'est pas un détail, qu'il n'est plus de ce monde, qu'il est mort. Mais pour le reste, nous n'en savons rien de plus. Ce qui ne peut que relancer la machine pour ceux qui aiment spéculer, pour ceux qui aiment commenter sur le commentaire, ça relance la machine à spéculation, ça relance la machine à « on va chercher à savoir à partir de ce qu'on ne sait pas ». Au final, ça fait une espèce d'étrange brouillard médiatique un peu asphyxiant. J'ai l'impression qu'en ce moment, quelque chose d'essentiel se passera en France sur le plan politique, sociologique, culturel. Ce serait traité comme un fait divers, un fait secondaire. Alors que, là, c'est une question, soit dit en passant, c'est une histoire tragique, je l'ai dit, mais on ne sait toujours pas s'il s'agit d'un tragique banal ou du sordide. Le tragique banal, c'est une balade en forêt, le petit cigare, il tribule la mort accidentelle. Comme il y en a toujours eu, comme il y en aura toujours, ou si on est devant le sordide, c'est-à-dire la possibilité de l'homicide qui est évoquée, si tel est le cas, ça change de nature. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Donc théoriquement, en fait, j'ajouterai une chose, on est devant l'anti-Lola. Vous vous souvenez de l'épisode Lola dont on a parlé? Alors là, c'est drôle parce que le système médiatique, à ce moment-là, disait « ce n'est qu'un fait divers, ce n'est qu'un fait divers, ce n'est qu'un fait divers ». Or, ce n'était pas qu'un fait divers, il y avait une signification politique. À ce moment, on s'en souvient, il y avait cassé une OQTF, elle n'aurait pas dû être présente si elle n'avait pas été... En fait, si l'OQTF avait été exécutée, elle n'aurait pas pu massacrer la petite Lola avec tout ce que ça impliquait. Donc, il y avait un côté... On était dans l'anti-fait divers chez Lola parce qu'il y avait une signification politique et sociologique forte. Ici, nous sommes, sans que le mot ne soit là pour enlever quelques valeurs, que ce soit la douleur des parents, on est devant le fait divers au sens propre, c'est-à-dire une histoire tragique, mais qui n'a pas de portée sociologique plus large. Du moins pour ce qu'on en sait en ce moment. Donc théoriquement, ça devrait s'arrêter là, mais c'est sous-estimer la force d'un des, probablement, des travers ou une des plaies de l'âme humaine les plus fortes qui soient, le voyeurisme qui, en ce moment, fait en sorte que tout le monde se jette sur le souvenir du petit Émile et avec cette idée que c'est apparemment c'est l'info du jour.
Selon vous, petite question subsidiaire, si l'enfant aurait été tué par un OQTF, ça changerait la donne?
Ben, en tant que, premièrement, s'il était tué, c'est la première. S'il a été tué, ça change la donne en tant que telle. Ensuite, dans le cas de Lola, parce que je faisais référence à ça, c'est que la notion de QTF, c'est qu'elle n'aurait pas dû être là. Donc là, c'est à ce moment-là qu'il y avait une dimension politique qui s'ajoutait à l'histoire. Là, si l'enfant a été tué par quelqu'un, ben, reste à voir quels sont les motifs, quelles sont les raisons. Tout ça sera d'intérêt dans l'enquête. Mais ce qui, dans l'affaire Lola, transformait le fait divers atroce que ça aurait pu être en fait politique, c'était que l'assassin présumé n'aurait pas dû être là. Ça, le fait politique était là. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a tout fait pour nous amener à ne pas en parler.
Je pense que le respect des parents n'empêche pas non plus de traiter le sujet.
Vous avez absolument raison.
Et ça n'est pas de manquer leur respect que de traiter aussi le sujet avec tout le respect qu'on a effectivement pour eux. Ça a été les premiers mots aussi du procureur aussi.
Très juste.
Qui a été très respectueux. Dans une France marquée par un sentiment d'insécurité plus fort que jamais, n'est-il pas normal néanmoins que cette histoire soit au cœur de l'agenda médiatique selon vous?
Je dirais paradoxalement non. Et je m'explique. L'insécurité dont on parle, vous savez, le sondage d'aujourd'hui, je crois dans le Figaro, 92% des Français considèrent que l'augmentation, l'insécurité est en augmentation en France. Je me demande qui sont les 8%, franchement. Qui sont les étranges 8% qui croient que ça va bien? Salut les gars, dans quel monde vivez-vous? Mais le fait est que cette histoire n'est pas une histoire qui participe à l'accroissement de l'insécurité en France. Toutes les sociétés, même la plus parfaite, la plus cohérente, la plus intégrée, la plus homogène, portent en elles l'histoire dramatique d'un petit compère, des drames familiaux. Toutes les histoires portent cela. Or, en ce moment, la question de l'insécurité qui augmente, c'est tout autre chose. On le sait, c'est le lien entre immigration, insécurité, le fait que des quartiers se dérobent à la loi, le fait que des quartiers basculent sous une autre loi, l'emprise des trafiquants, le fait que les mini-narco-états se multiplient, le fait qu'il y a une forme d'islamo-gangstérisme qui progresse dans le pays, le fait que les femmes, lorsqu'elles s'en vont dans les transports en commun, savent qu'elles peuvent voir leur sécurité compromise, que les femmes ne peuvent plus sortir de chez elles en bien des quartiers sans être sur un mode de la vigilance permanente. Ça, c'est la question de l'insécurité qui progresse. L'insécurité dont nous parlons politiquement, qui a une signification politico-sociologique, c'est celle-là. Ça, c'est autre chose. Mais pourquoi, à certains égards, certains en parlent avec autant d'acharnement, c'est en bonne partie justement parce que c'est une histoire écran. C'est-à-dire, ça vient, premièrement, rappelez-vous, Gabriel nous le rappelait hier, la question posée par un ou une journaliste, dans quelle mesure le fait que les parents soient des catholiques marqués à l'extrême droite a-t-il une influence sur le traitement de l'enquête et tout ça? Alors là, c'est comme tous les fantasmes d'une partie du milieu médiatique. Oh là là, des cathos tradis peut-être, des cathos très conservateurs, donc il doit avoir une histoire sordide derrière. Pour eux, le sordide, c'est pas le sort de l'enfant. Pour le sordide, c'est les convictions des parents. Donc là, on s'imagine, on tricote un scénario à partir d'un conspirationnisme anticatholique qui est très présent dans une partie des médias. Et là, on se dit, puis là, ça alimente aussi cette thèse que la vraie violence est intrafamiliale en France. La vraie violence, c'est celle-là qu'on doit chercher. La vraie violence se passe avec une certaine catégorie de la population qui serait, en fait, les Français de souche, entre guillemets, qui seraient les vrais responsables en toutes circonstances. Et là, on a une histoire qu'on creuse, qu'on met de l'avant, en disant, voilà le vrai visage de l'insécurité. Et c'est un effet paradoxal, presque un effet de falsification du réel. C'est-à-dire, on en parle d'autant plus que ce n'est pas de cette histoire dont nous parlons quand on parle d'insécurité. Et il y a eu une scène, je ne sais pas si vous avez vu, dimanche, qui était assez intéressante sur le plan médiatique. Donc, Alain Finkielkraut est invité sur une autre chaîne et on a la nouvelle pour le petit Émile. Et on l'interrompt brutalement à cause de l'info. Je précise, info, on a trouvé le corps et c'est tout, on n'en sait rien de plus. On n'en sait rien de plus. L'émission est interrompue d'un coup. Et Finkielkraut pose la question très légitimement, sans faire d'outrance, sans faire d'éclat. Il dit « Ah oui, c'est terminé, on arrête comme ça. » Il trouve que c'est manquer un peu de politesse que d'interrompre une émission immédiatement comme ça. Et là, il y a toute une espèce de backlash médiatique, réaction sur les réseaux sociaux, sur le mode « Il serait indécent, il n'est pas à la hauteur, pourquoi ne s'incline-t-il pas devant les événements ?» Non, un instant, sa réaction était plus que légitime. Il ne manquait pas de respect envers le petit Émile. Il disait simplement que cet événement, pour ce qu'on en sait à ce moment-là, il peut avoir un flash info, il peut avoir un moment dans une émission au creux du moment, mais ça ne vient pas se remplacer l'actualité. Ce n'est pas un élément qui doit d'un coup écraser toute l'actualité. Donc on s'est moqué de Finkielkraut dans les circonstances, à tort, je crois. Il a une réaction de bon sens sur l'importance du récit médiatique. Mais j'y reviens, cette histoire permet d'occulter, en fait, parce que plus on en parle, plus elle occulte le visage réel de l'insécurité qui progresse, mais ça fait probablement l'affaire sur le plan médiatique ou symbolique de ceux qui, justement, préféraient qu'on ne parle pas de cette insécurité parce qu'apparemment, ce serait un choix éditorial producteur de haine.
Mais j'ai pas compris, finalement, selon vous, faut pas parler de cette histoire?
Ah non, je ne dis pas ça. Pas du tout même. Il faut en parler, cela dit, pour la traiter, pour ce qu'elle est une histoire, pour l'instant, dont on sait peu de choses. C'est important de le rappeler. Donc, éviter de surproduire des hypothèses à partir d'autres hypothèses. Il faut respecter, je crois, dans les circonstances, le souhait des parents qui, je comprends, ne veulent pas se faire harceler comment mille journalistes. Donc, il faut respecter ça. Il faut en parler lorsqu'on a des infos. Il faut en parler avec la décence nécessaire. Il faut en parler sans surthéoriser, surinterpréter. Il faut en parler sans sursymboliser. Il faut en parler sans entretenir la passion mauvaise pour le voyeurisme. Il faut en parler sans transformer le système médiatique en système de commerce de village. Et pour l'instant, donc, il faut en parler, oui, de proportionner ma manière. Sans transformer le fait divers dans les circonstances en fait qui écrase tout le reste. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on en parle justement de la manière dont on ne devrait pas en parler.
Dans un instant, Charlotte va en parler aussi, avec toutes les précautions que vous avez énoncées il y a quelques instants et avec la précaution qu'on lui connaît. Vous vouliez réagir, Dimitri?
Oui, je pense qu'il y a un peu deux raisons circonstancielles qui font que depuis 48 heures, on ne parle plus que d'Émile. Il y a un, ça se produit la découverte du corps en plein milieu d'un week-end pascal. Ça produit une information à un moment où il ne se passe pas grand-chose. Il y a un effet de diversion, en fait. Et les médias sont comme ça. Quand ils sont sur une longue séquence sur un sujet, par exemple, on a parlé beaucoup de drogue, d'insécurité, de délinquance en ville. Là, il y a un effet, quelque part, entre guillemets, dépaysant. Ça se passe dans un endroit où, en théorie, il ne se passe rien. C'est la France de l'envers, c'est la France de la campagne, c'est la France rurale, c'est la France des petits villages un peu mystérieux, hein, dans ces coins de Alpes-de-Haute-Provence où il se passe des choses, mais un petit, voilà, on ne sait pas trop. Voilà. Mmh. Et je pense qu'il y a ce double effet. Hein. Il y a un effet de diversion qui est recherché par les médias. Ça change de l'actualité de ces derniers temps. À un moment de creux de l'actualité, et ça prend du coup, il y a un effet de zoom très fort.
J'aime bien aussi l'approche qu'a eue Mathieu.
Ah, mais ça,
oui,
ça
en disant que, pas, hein. Comme si on a quand même envie, ouais, qu'il se passe, que de montrer un certain visage de la délinquance qui n'existe
toujours
pas.
Toujours des tentatives d'exploitation, c'est sûr.
Oui, c'est ça.
Mais c'est Marc, pas non, le côté le plus noble de la presse, ce genre d'événement terrifiant, sordide. Souvenez-vous, le petit Grégory qui a été réévoqué il y a à peine un mois. La presse s'était emparée de l'histoire. C'était même plus de l'indécence. C'était monstrueux. On a eu des livres sortis en précipitation qui accusaient la mère. La maman, qui était dans la souffrance la plus totale, elle a été inculpée, emprisonnée. Tout cela parce qu'il y avait la pression médiatique. Comme si il était bon de montrer que l'ignoble pouvait l'emporter sur l'humanité. Donc, il y a cette revivance aussi, cette réminiscence de cette affaire à travers ce petit garçon. Je pense que ça attise aussi les médias dans cet effet de répétition.
Alors, Charles Ordonez, vous sentez toujours de faire votre chronique dans un instant avec toutes les précautions.
J'ai pris des notes.
Très bien, donc on en parle dans un instant et j'ai hâte d'avoir aussi votre regard sur cette affaire, Charlotte Dimitri. On va parler à présent aussi d'une autre affaire particulièrement choquante, la mort de la jeune Shannon, 13 ans, mercredi dernier au centre hospitalier d'Amiens, après 3 semaines passées dans le coma suite à ce qui semble avoir été un viol d'une violence extrême. Et on tenait à en parler, Dimitri, parce que justement là aussi, je veux dire, bien sûr qu'il y a des viols, mais j'ai l'impression que là, c'est passé aussi sous silence.
Oui, passer sous silence, dans le sens où on voudrait taire l'affaire, je ne crois pas, mais c'est vrai qu'elle n'a pas les égards, elle n'a pas les égards médiatiques, peut-être que cette affaire mériterait.
Comme si on s'habitue, pardon, ouais, hein, mais.
On va en parler. Mais d'abord, sur ce qui s'est passé, je voudrais insister sur le fait qu'il faut rester assez prudent, parce qu'il y a quand même des zones d'ombre dans la succession des événements, dans la responsabilité des uns et des autres, dans les intentions. J'ai pu constater des écarts de récits assez importants, en fait, selon les sources. Et vous en avez 4 dans cette affaire. Vous avez le parquet de Senlis, donc c'est lui qui dirige l'enquête. Vous avez l'avocat de la famille de la petite Shannon. Vous avez l'avocat, les avocats des 3 co-mis en examen. Et puis vous avez la rue, les voisins, la bande, la rumeur, etc. Et donc, dans les articles de presse qui relatent l'affaire, vous avez tous ces points de vue qui sont comme ça mélangés. Et ce n'est pas évident, en fait, hein, de faire le tri. Alors moi, je vais tenter de vous clarifier le déroulé des événements.
Merci, super.
Oui, parce qu'en fait, assez peu de choses ont été écrites sur cette affaire qui remonte quand même au 6 mars. C'est-à-dire il y a maintenant presque un mois. C'était un mercredi. Et donc, la petite Shannon, vous avez sa photo à l'écran, elle a 13 ans, elle est collégienne, elle est en classe de 3e. Elle habite un petit village qui s'appelle Caufry, qui est au nord de Creil, hein, c'est à une trentaine de kilomètres au nord de Creil, dans l'Oise. Et elle demande, en ce mercredi après-midi, à sa maman de la déposer chez ce qui semble être l'une de ses meilleures amies, dans le village d'à côté, qui s'appelle Rantigny. Alors, la maman se pose pas trop de questions, hein, elle emmène sa fille assez souvent chez sa copine en voiture. Elle attend que sa fille soit rentrée à l'intérieur de la maison pour ensuite partir faire 2-3 petites courses dans le secteur. Il y a un petit supermarché juste à côté de chez la copine. Et une demi-heure plus tard, elle reçoit un appel. Alors, j'ai pas trouvé qui l'avait appelé, mais vraisemblablement, je pense que ce sont les autorités, qui l'informe que sa fille est grièvement blessée, qu'elle est dans un état critique.
Une demi-heure après. Alors, ouais, que s'est-il passé dans la maison ?
Là, c'est toute la question. Alors, il apparaît que les 2 adolescentes, les 2 copines, elles sont rejointes par 2 types de 18 et 19 ans, donc 2 jeunes hommes, mais quand même sensiblement plus âgés qu'elles, 2 majeurs, alors qu'elles sont mineures. Et c'est là que ça devient flou, parce que apparemment, ils ont été invités par les filles, mais est-ce que c'est par les 2 copines, ou est-ce que c'est seulement par l'une d'entre elles ? Alors, de ce que j'ai compris, ce serait plutôt l'amie de Shannon qui aurait invité les garçons, mais peut-être qu'elle n'en aurait invité qu'un seul, qui pourrait être son petit copain, ou bien un garçon avec qui elle aurait échangé sur les réseaux sociaux, en l'occurrence TikTok, et il aurait pu lui mentir sur son âge afin de provoquer la rencontre. Vous voyez, tout ça est un petit peu flou, et selon les articles que vous lisez, que ce soit dans le journal Le Parisien, dans la presse quotidienne régionale, vous n'avez pas tout à fait les mêmes détails. Le Courrier Picard, donc, qui est le journal de l'Oise, lui parle d'un rendez-vous amoureux entre la copine de Shannon et son petit ami de 18 ans, qui aurait donc ramené son copain ou bien son frère. Voilà, donc tout ça n'est pas encore très très clair.
On va marquer une pause et on va revenir sur les détails de cette histoire. Je pense qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas passer ces événements sous silence. On marque une pause, à tout de suite. Un retour sur le plateau de Face à l'Info. Beaucoup d'actualités ce soir et on tenait absolument avec l'équipe de Face à l'Info à parler ce soir de la jeune Shannon, 13 ans, qui a été violée et décédée des suites de ses blessures 3 semaines après. Dimitri, vous nous expliquiez les faits et vous nous racontiez que là, voilà, on est dans la maison. Il y a les 2 jeunes filles et 2 garçons qui ont été invités par une amie de Shanna, a priori. Que s'est-il passé?
Voilà, donc je vous expliquais que bon, on ne sait pas vraiment, on n'a pas tout le détail précis de comment les 2 garçons entrent en contact avec les 2 filles, quels sont les liens qui les unissent, etc. Mais ce que l'on sait, c'est qu'une fois les 4 dans la maison, la copine de Shannon aurait couché avec le premier type, celui de 18 ans, et Shannon serait donc allée dans une autre pièce de la maison avec l'autre garçon, le plus âgé, celui de 19 ans, dont on ne sait pas encore clairement si c'est l'ami du premier ou si c'est son frère. Et à partir de là, on voit, alors les versions vont diverger totalement selon qu'elles émanent des avocats de la famille de Shannon ou bien des avocats de ceux qui sont mis en examen. Alors, je vous donne d'abord la version de la défense des 3 commis en examen. Il semble que ces 3-là, alors en l'occurrence, ce sont donc les 2 jeunes hommes, mais aussi la copine de Shannon, qui serait a priori sa meilleure amie. Shannon aurait eu un rapport sexuel avec le plus âgé des 2, le type de 19 ans, que vraisemblablement elle ne connaissait pas depuis très longtemps, voire elle ne connaissait pas du tout. Mais, dit la défense du type en question, la jeune fille aurait été soudainement prise de convulsion et aurait fait un arrêt cardiaque. Et c'est la copine qui lui aurait porté les premiers secours, massage cardiaque, à son ami, avant l'arrivée des pompiers. Voilà. Alors, ce n'est pas du tout la version de la famille de Shannon. Alors, je vous préviens, c'est assez difficile à entendre. La famille parle d'une scène d'une rare violence. La jeune adolescente aurait été retrouvée dans une mare de sang, une plaie béante au niveau du vagin qui aurait été déchirée. Semble-t-il, Shannon, ça s'est établi, était en arrêt cardio-respiratoire quand les pompiers sont arrivés. Et Shannon donc, est sortie sur un brancard de la maison par les pompiers. Et à ce moment-là, son pronostic vital est engagé. Donc c'est ce qu'a expliqué le procureur de Senlis qui pilote l'enquête. La jeune fille à ce moment-là est transférée à l'hôpital. Tout ça, on est le 6 mars, hein, faut l'avoir en tête. Et elle est maintenue en vie comme cela par un respirateur pendant 3 semaines. D'après le Parisien, l'adolescente à ce moment-là est en état de mort cérébrale depuis l'agression. Il y aurait apparemment eu un moment d'espoir pour elle. Et puis les médecins auraient vite expliqué à la famille qu'en fait, il n'y avait plus vraiment de vie future possible pour elle, pour Shannon. Et donc, c'est sa mère qui prend la décision de la débrancher mercredi dernier, le 27 mars, donc 3 semaines pile après les faits.
Qu'en est-il, Dimitri, des 3 personnes mises en examen à ce stade?
Alors, donc, je vous le dis, redis, il y a les 2 jeunes hommes. Donc, le violeur présumé de 19 ans, qui est en détention provisoire. Donc, si c'est la version de la famille hein, qui est établie, là, on est quand même dans un niveau de barbarie qui est quand même absolument ahurissant. Hein, vraiment. Si jamais ces faits-là sont établis, son ami et donc éventuel complice et l'adolescente mineure, on déduit que c'est donc l'ami de Shannon, ceux-là sont soupçonnés d'abstention volontaire d'empêcher un crime et donc ils ont été laissés libres, mais sous contrôle. Alors, les questions qui se posent, est-ce que c'était un guet-apens? Est-ce que c'était un guet-apens qui visait spécifiquement Shannon? Est-ce que c'est un accident? Comment les garçons ont pris contact avec les filles? Est-ce que eux ont menti sur leur âge? Est-ce que les filles ont menti sur leur âge en disant qu'elles avaient 15 ans ou plus? Vous voyez, toutes ces questions-là, pour le moment, on ne sait pas trop. Alors, une autopsie a été pratiquée vendredi. Il se trouve que les résultats sont censés tomber aujourd'hui. Donc, je pense qu'on va assez rapidement en savoir davantage. Shannon aurait dû fêter son 14e anniversaire dans 3 jours, là, avec son frère jumeau. Et donc, à la place, c'est son enterrement qui va avoir lieu donc, en début de semaine prochaine. La famille, qui apparemment n'a pas trop de sous, a organisé une cagnotte. Ils ont levé 16 000 euros pour offrir une belle cérémonie à leur fille. Et une marche blanche devrait avoir lieu la semaine prochaine. Donc, je vous la raconte comme ça, de manière un petit peu mécanique, un petit peu clinique. Hein. Mais pour vous dire d'abord qu'on ne sait pas tout. Et parce que, enfin, je veux dire, moi, franchement, toute l'après-midi, j'ai pas essayé de rationaliser l'affaire. C'est trop sordide, vous voyez. Si vraiment c'est ça qui s'est produit, enfin, je veux dire, on est dans l'abject, on est dans l'abominable. Ça m'a rappelé l'affaire de Shaina. Vous vous rappelez Shaina, c'est passé à Christ, pas très loin. Hein. L'affaire est un petit peu différente, mais c'est une jeune fille de 13 ans qui avait été mise enceinte par un type qui était vraiment un sale type, qui disait d'elle, je veux pas être le père d'un fils de pute, en parlant du gamin que la jeune Shaina portait en elle. Et il l'aurait tué en lui mettant le feu. Donc on est aussi là dans une barbarie absolument extrême. Les faits ne sont pas les mêmes, mais vous voyez, il y a quelque chose d'assez similaire. La question que je me pose, c'est comment se fait-il qu'il ait fallu 3 semaines pour qu'on parle de cette histoire-là. Est-ce qu'il a fallu que Shannon décède pour que son affaire devienne suffisamment intéressante pour que les médias s'en saisissent? Le premier article que j'ai retrouvé, c'est Waz Hebdo, donc c'est la presse locale, hein, qui en parle seulement samedi 30 mars, vous voyez,
après la mort,
après le décès de la jeune fille. Est-ce que le viol de Shannon était si banal qu'il a fallu qu'elle le paye de sa vie pour qu'on en parle, voyez? Alors, je vous répondrai finalement peut-être en effet, tant le phénomène des violences sexuelles en France est massif. On parle, et alors les chiffres sont assez imprécis, mais de 40 000 mineurs victimes chaque année de violences sexuelles, et je mets à part tout ce qui est intrafamilial. Mathieu disait tout à l'heure, parlait des violences intrafamiliales, c'est un phénomène de société absolument massif. Là, on n'est pas tout à fait dans ce contexte-là. Mais quand même, et 40 000 mineurs victimes de violences sexuelles, de l'attouchement jusqu'à l'agression sexuelle, jusqu'au meurtre sexuel barbare, voyez. Et à 80%, les victimes sont des filles. Voilà. Et c'est bien qu'on ait pu en parler ce soir, sans savoir tout le détail, mais parce que ce qui est arrivé à Shannon, franchement, on ne souhaite pas que ça se reproduise, quoi.
Exactement. Merci en tout cas pour la famille, pour les habitants aussi, qui se posent beaucoup de questions. Et ça le fait penser aussi tristement à Cherbourg, même si la jeune fille était plus âgée. Mais voilà, on ne veut pas en tout cas passer sous silence ces moments, même si c'est difficile, même pour nous, hein, d'en parler. Que ça soit dit clairement, c'est très difficile pour nous d'en parler. Marc Menon. Alors que CNews a été première chaîne info ex aequo au mois de mars, et merci d'ailleurs à tous, hein, les téléspectateurs de Face à l'Info qui sont très fidèles depuis plus de 4 ans, alors qu'une commission d'enquête, je le disais en titre, en cours, voudrait remettre en question la fréquence de CNews, force est de constater que les critiques pleuvent. J'avoue, et les journalistes de CNews également, avoir du mal à me reconnaître dans certains portraits. Vraiment, je trouve une telle différence, un tel écart entre ce qu'on peut lire, par exemple comme sur Mediapart, CNews qui fabrique la haine, et la réalité. Et la question qu'on s'est posée ce soir, Marc Menon, pour en parler, c'est est-ce qu'à un moment ou un autre, vous vous sentez, nous nous sentons, fabriqueurs de haine?
Alors non seulement fabriqueurs de haine, et vivre sous la férule d'un dictateur qui imposerait les sujets, qui ne tolérerait pas qu'il y ait le moindre propos contradictoire. C'est-à-dire que l'on serait dans une presse encore plus corsetée qu'en Union soviétique. On aurait là, non pas à donner le papier pour vérifier ce que l'on a écrit, et moi j'écris pas. Alors c'est encore plus dur, je n'ai pas d'oreillette, contrairement à certains, et pour autant, je m'exprime.
Les oreillettes, c'est pour me dire... Arrêtez Marc Menon.
Donc, c'est invraisemblable, et alors il y a une sorte d'unanimité. Unanimité qui vient de quoi? Eh bien, sans doute de quelque chose qui s'est instillé tout doucement dans notre société depuis des années. C'est l'esprit de victimisation. Mathieu a reçu Pascal Bruckner ce week-end. Il faut lire son livre « Je souffre, donc je suis ». Car tout est là. On est dans une société... Oui, très très belle émission, avec un beau succès d'écoute, oui. Donc tout va bien. Mais alors donc, s'il a un succès d'écoute, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il est suspect. Ce qui est dramatique dans tout cela, donc, là vous avez Pascal Bruckner qui essaie de comprendre, de décrypter. Il y a eu la Shoah, il y a eu cette abomination de l'abomination, et des martyrs reconnus comme tels, et le peuple juif, qui soudain eh bien, est pris en considération par rapport à ce qu'il a subi. Et de là naît presque chez ceux qui, dans leur domaine, dans leur petit coin, se sentent eux aussi en souffrance, une sorte de jalousie morbide, quelque chose d'épouvantable du côté de l'âme. C'est-à-dire, pourquoi eux serait toujours reconnu comme ayant subi ce qui était intolérable, alors que moi, au quotidien, je suis là, dans la mouise, je suis là à subir le racisme, à subir le fait qu'on ne reconnaisse pas ma différence sexuelle, etc., etc. Et donc, à partir de là, il y a une presse qui a fini par porter la cause, une sorte de fausse compassion. Et il y a un discours uniforme qui s'est instauré dans les médias. Il faut être à l'écoute
de tous ceux qui gênent, de tous ceux qui souffrent. C'est donc l'intersectionnalité de ceux qui se sont enfermés dans des domaines et qui disent « Mais ma vie, elle est épouvantable, vous ne vous rendrez pas compte au quotidien ce qui m'arrive. » Alors oui, c'est vrai. N'oublions pas que les homosexuels, très longtemps, jusqu'à il y a une vingtaine d'années, c'était un crime que de se retrouver dénoncé pour homosexualité. Donc ça, c'est une évidence. Oui, les femmes subissaient et subissent encore des atrocités. Mais lorsque l'on voit comment on peut se plaindre et dans quelle outrance, n'oublions pas déjà que nous pourrions tous nous assimiler à une cause de martyr. Moi qui suis fils d'ouvrier, moi qui ai connu les fins de mois difficiles de ma famille, où l'on ne pouvait pas se rendre chez l'épicier parce qu'on n'avait plus les moyens d'aller acheter l'huile dont on avait besoin. Est-ce que pour autant, je suis quelqu'un qui doit m'inscrire dans un désir de réparation de la société? Ceux qui, en avril 1834, avaient des ascendants, des ancêtres qui se trouvaient dans l'immeuble rue Transnonain, eut Bugeaud a fait une intervention en massacrant l'ensemble de ceux qui habitaient cet immeuble, tout simplement parce que lors des barricades, il y avait un capitaine qui avait été tiré par l'un des habitants de cet immeuble et il fallait connaître, donc prendre les mesures de répression.
Qu'est-ce que vous voulez dire à travers tout ça?
Eh bien, à travers tout ça, c'est que tout un chacun peut sentir, effectivement, qu'il a, dans sa généalogie, des points qui peuvent le mettre en mortrissure. Que tout un chacun a des souffrances au quotidien. Mais à partir de là, la presse ne peut pas entrer dans cette empathie. Alors nous, on nous reproche quoi? On nous reproche de dire, à tel endroit, oui, dans les écoles, il y a l'islamisme qui fait des dégâts.
Ce soir, on n'en a pas parlé, par exemple.
Non, mais on va avoir des faits divers que l'on ne considère pas comme un fait divers parce qu'on regarde la situation et on dit à cet endroit-là, mais c'est simplement un fait social. Donc là, on est dans la sociologie. C'est l'immigration. Quand on parle de l'immigration, ce n'est pas une obsession. Alors Rocard devient un facho, lui aussi. C'est-à-dire qu'ici, sur cette chaîne, on a cherché à traiter les sujets en toute impartialité, en toute objectivité, chacun selon nos sensibilités, chacun selon notre propre parcours et surtout notre réflexion intellectuelle, dans son intégrité, dans ce désir de réfléchir et de ne pas être des perroquets qui reprenons des causes pour essayer, eh bien, de nous dorer une sorte de conscience sublime en regardant, en disant « Regardez, nous on soutient ces pauvres gens, comme nous sommes admirables, on ne fait pas ça. »
Et où est la haine dans tout ça?
Eh bien la haine, c'est qu'à partir du moment où on n'est pas dans la compassion de toutes ces causes, vous devenez un élément de haine. Parce que là vous dites « Bah oui, il y a de l'islamisme, c'est intolérable qu'une damine se retrouve à l'école avec son abaya, qu'elle force et qu'elle mente en disant le proviseur m'a rudoyé, et que l'on s'aperçoive qu'elle a menti et que le proviseur ne faisait que son métier en demandant à la jeune fille de se plier à la loi. Eh bien là, vous devenez une ordure, parce que la pauvre gamine, sa famille, elle est dans un quartier où on n'est pas spécialement bien assimilé et qu'à partir de là, c'est intolérable. Vous savez, la Cour de cassation en 2023... a été interpellé par des gens qui demandaient réparation car ils s'estimaient descendants d'esclaves. Et il leur fallait avoir des indemnités, avoir une prise en considération de leur situation.
Vous avez un contact?
Pardon?
Vous avez un contact? Non, je rigole.
Non, mais vous rendez
vous
compte?
Vous détendre un peu l'atmosphère.
Oui, non, mais vous avez raison.
C'est clair.
Alors, à partir de là, nous sommes des pourris, nous sommes des salauds, simplement parce qu'on ose regarder ce qui se passe, ce qui se trame dans notre société, et de l'exposer sans justement tomber dans cette commisération.
Alors, c'est intéressant, Charlotte Dornelas, en quoi parler de tout, parler du réel, c'est être dans la fabrique de la haine? Pardon, mais j'arrive toujours pas à comprendre, même si j'ai bien compris ce que vous dites.
J'espère.
Aussi. Mais... non, mais le fait que, voilà, si on est dans la fabrique de la haine, vous voyez ce que je veux dire, c'est tellement faux, tellement irréel.
C'est la logique de l'inversion.
Oui.
Non, mais c'est une technique qui est utilisée depuis longtemps, de qualifier moralement un désaccord politique. Initialement, ça se faisait sur le terrain politique parce qu'étaient maintenus dans le silence les gens qui le portaient précisément, soit dans le terrain médiatique, soit sur le terrain de l'analyse, tout simplement de la sociologie. Mathieu, vous en parlerez mieux que moi. Donc sur tous ces terrains-là, la parole était supprimée. Donc on attaquait uniquement sur le terrain politique les différents courants. Souvenez-vous, il y avait évidemment le Front National ou le Rassemblement National. Et n'importe quel homme politique, où qu'il se situe sur l'échiquier, s'il abordait certains sujets, il marchait sur les terres du Front National. Donc c'était toujours une manière de ramener à ça. Maintenant que le pluralisme s'installe, non pas parce que tout le monde pense la même chose sur une chaîne, mais parce que certains qui n'ont pas la parole ailleurs parlent aussi sur cette chaîne et que le public apprécie, on va dire, cette volonté de pluralisme justement dans les avis qui sont donnés, et ben là, il faut taper de la même manière parce qu'on ne supporte pas. Et donc le meilleur moyen, quand on n'a pas forcément d'arguments, d'attaquer des arguments ou des contradictions sur le fond, c'est évidemment de décrédibiliser moralement, et c'est exactement ce qu'ils font.
Bah, en fait, je ne suis pas très surpris. Pas la même sensibilité que vous, mais moi, me faire traiter des haineux par ces gens-là, pour moi, en fait, nous tous, ça fait partie de leur travail, je dirais. Ce sont des commissaires politiques.
Non, mais ça reste.
Non, bien sûr que
je
ça reste.
Je comprends ce que vous dites.
Je préférais que tout le monde m'aime, je préférais être une rockstar, je préférais qu'on me prenne pour Brad Pitt, bon, tout seul.
Mais non, Brad
Pitt moral. J'aimerais que tout le monde m'aime et tout le monde dise de marier ma fille, s'il vous plaît.
Mathieu, ne caricaturez pas non plus.
Non, mais vous allez comprendre ce que je veux dire.
Ce que je veux dire, c'est...
Ils sont haineux depuis longtemps.
C'est pas entre l'amour et la...
Non, mais le fait est que depuis... Si on fait l'histoire du XXe siècle, remise en question de la réussite de l'idéologie dominante. Donc, en Union soviétique, on nous disait, vous êtes en fait des conspirateurs réactionnaires. On appelait ça des saboteurs à l'époque. Donc, pourquoi le socialisme ne fonctionnait pas? Parce qu'il y avait des saboteurs qui l'empêchaient de fonctionner. Aujourd'hui, comment nomme-t-on les saboteurs du régime diversitaire qui fonctionnent pas? Je suis désolé, ça fonctionne pas. L'immigration massive, ça n'a pas fonctionné. L'éclatement du monde en 3 millions d'identités, ça n'a pas fonctionné. Donc, comment nomme-t-on aujourd'hui le saboteur de l'URSS? On l'appelle le provocateur de haine, le producteur de haine. Et on est devant une idéologie qui nomme haine toute forme de désaccord avec sa vision des choses. Donc, voyant cela, ils font leur travail. Je ne suis pas surpris. Ils sont haineux. En fait, c'est fascinant. C'est qu'ils sont beaucoup plus haineux que parmi les gens dans le système médiatique. J'ai jamais vu aussi haineux que ces commissaires politiques sans envergure à la culture limitée qui n'aiment rien tant ensuite que raconter des histoires d'excréments sur des murs. Mais bon, je dis qu'ils se sont reconnus dans le début du texte.
En tout cas, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire qu'il y a des gens qui vivent la même chose. Donc c'est intéressant, ils nous écoutent et peuvent aussi comprendre la mécanique. Ils sont critiqués parce qu'ils viennent chez nous, parce qu'ils sont proches de nous, j'en sais rien.
Mais il n'y a pas de logique de débat. Enfin, je veux dire, Mediapart qui reproche à CNews d'être une chaîne d'opinion. En l'occurrence, l'opinion de Mediapart, on s'en fiche. L'opinion de l'ARCOM, en revanche, compte. Et l'opinion de l'ARCOM a été très claire en la question. Le cadre de la loi est respecté. Et puis, franchement, les leçons d'opinion de Mediapart, quand ils organisent des débats sur le thème « Comment lutter contre l'extrême droite ?» et qu'on entend une comédienne, comment s'appelle-t-elle ? Maudrama, c'est ça, expliquer qu'il faut apprendre les armes, et ça passe crème. Hein, et ça passe crème.
Oui, le RN a porté.
Voilà. Non, mais donc voilà. Et puis
en l'occurrence, ils ont pas envie d'en sortir une balle dans la tête.
Et puis en l'occurrence, Mediapart, c'est aussi susciter la haine. Hein. Je veux dire, la gifle que prend Edoui Plenel de la part de Mai Wen, celle-là, entre guillemets, il l'a pas volée. Hein. Il l'a pas volée, cette haine.
Alors, en tout cas, moi, je veux absolument que mes mousquetaires continuent à être des mousquetaires. Donc, je vous emmenais. Non. Je vous ai emmené des petites épées que j'ai récupérées au château de Guédelon, que j'ai été visiter. Comment ?
C'est Excalibur.
Que j'ai récupéré au château de Guédelon. Donc, vous savez, c'est un château qui est...
Oui,
pardonnez-moi, merci beaucoup.
Fait selon les passions du temps.
Exactement. Voilà. À visiter, absolument. Regardez, j'ai mis la petite affiche ici. Et continuez surtout. Dimitri, des fois, vous laissez mes cadeaux. Si jamais vous laissez mon cadeau, il y a Julien Pasquier qui veut déjà le récupérer. Je vous ai à l'œil, hein, si vous lâchez.
Écoutez,
mon petit
je vais
cadeau.
Je vais la ranger dans mon fond.
Ah, c'est bien, mon Dimitri. Voilà. Ah, voilà, bon, j'aime ça. Oh, ça vous va bien. Et ça, j'ai emmené ça pour ma belle Charlotte, pour qu'elle puisse être une petite princesse qu'elle est déjà. Vous allez choisir le
le rouge ou le blanc, comme vous voulez. Cela ne nous empêchera pas de continuer notre émission, parce qu'on n'a pas fini, on a des sujets importants à aborder ce soir, notamment avec vous dans un instant, cette bisbille entre public et privé, on va dire, avec ces deux députés LFI et Renaissance qui veulent critiquer le financement de l'école publique. Et Charlotte Dornelas, avec les précautions dont on a parlé au début avec Mathieu Bock-Côté, avec cette difficulté qu'on a d'aborder le sujet du petit Émile, on va s'intéresser avec vous pour essayer de comprendre pourquoi cette histoire nous choque, pourquoi, dans le prolongement de ce qu'a dit Mathieu, on ne peut pas ne pas en parler. Qu'est-ce que ça veut dire de nous, nous téléspectateurs et nous journalistes ?
Je crois qu'il y a une chose première, c'est que le mal, de manière générale, nous hante, nous indispose, nous gêne. Et il y a l'éternelle question qui se pose à notre intelligence, parce qu'il y a dans le mal un mystère immense. C'est-à-dire que tout le monde, même en commettant le mal d'ailleurs, c'est assez élémentaire, mais cherche le bien en général. On cherche le bien, alors il y a parfois des biens qui n'en sont pas, certes. Mais donc le mal est vraiment quelque chose qui choque profondément notre intelligence. Or, l'homme étant rationnel, il cherche à comprendre, il cherche des raisons. Donc devant le mystère du mal, qu'est la mort d'un enfant, quelles que soient les circonstances de cette mort, et Mathieu le rappelait très bien, ça n'est pas normal qu'un enfant meure, encore moins à cet âge-là, évidemment, encore moins avec le mystère qui entoure la mort de cet enfant. Et donc notre intelligence, elle mouline parce qu'elle veut absolument des réponses, parce que c'est insupportable de le faire. Et d'ailleurs, pour Mathieu évoquait toutes les situations dans la vie où des enfants perdent leurs parents, il y a des mots pour ça. Quand un mari perd sa femme, il y a des mots. Des parents qui perdent un enfant, ça ne se qualifie même pas, ça n'est pas imaginable en fait. Même la langue, qui est quand même assez riche, ne le qualifie pas. Alors ça génère une immense communion d'abord, une communion à l'échelle du pays, hein, une communion de compassion réelle, et je mets certains journalistes de côté malheureusement, et vraiment ça me fait mal de le dire, mais c'est quand même la stricte réalité depuis le début de cette affaire. Mais il y a une communion, et d'ailleurs les parents d'Émile avaient très régulièrement, quand ils ont pris la parole, ils ont systématiquement, et c'est encore vrai dans le communiqué qu'ils ont envoyé ces derniers jours, remercié à la fois les enquêteurs, les juges d'instruction, mais également tous ces Français qui leur ont apporté du soutien, parfois physiquement, en venant chercher le petit Émile pendant des jours et des jours au tout début, et depuis. Alors vous ajoutez à ça, évidemment, à cette question de la mort d'un enfant, vous ajoutez le mystère qui attise toujours la curiosité de tous, et souvent, malheureusement, publiquement et globalement, et Marc évoquait à bon escient l'affaire du petit Grégory, souvent pour le pire, quand ça devient médiatisé, collectif, et que tout le monde cherche des hypothèses qui se transmettent dans le débat public. Alors, parce qu'on cherche les tréfonds de la nature humaine, on imagine toujours qu'il y a quelqu'un derrière, parce qu'encore une fois, on cherche à la fois à comprendre, à se rassurer, à comprendre ce qu'il y a eu. Et là, je pense qu'il faut vraiment, et alors c'est vrai médiatiquement, mais c'est vrai collectivement, parce que les journalistes le font aussi, parce que ça fonctionne, entre guillemets. Mais là, l'interrogation, c'est la dignité collective de nos comportements. On s'interroge souvent sur la dignité ces derniers temps, et on accole parfois la dignité aux personnes. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que toute personne, parce qu'elle est une personne, est digne. En revanche, il y a des comportements qui, eux, sont particulièrement indignes. Et je pense que c'est vraiment là-dessus, dans ce genre d'affaires, qu'il faut s'interroger. Et d'ailleurs, le procureur, vous l'avez dit tout à l'heure, a commencé sa conférence de presse en appelant, en disant que les parents d'Émile et la famille d'Émile traversaient encore des moments douloureux dans la dignité. C'est le mot qu'il a utilisé. Et il appelait tous les gens qui l'écoutaient au respect et à la mesure. Mot, à mon avis, choisi, étant donné les circonstances. Et les parents qui sont restés discrets dans depuis le début, en fait, depuis ces 9 mois, ils ont à nouveau pris la parole, cette fois-ci, par le biais d'un communiqué qui a été envoyé par leur avocat, et ils indiquent 3 choses. Leur est au deuil, au recueillement et à la prière. Deuxièmement, leur avocat parle, Marie et Colomban, qui sont donc les parents d'Émile, savent désormais, en ce dimanche de la résurrection, qu'Émile veille sur eux dans la lumière et la tendresse de Dieu, mais la douleur et le chagrin demeurent. Je précise, et là j'ouvre une parenthèse, qu'il précise que la douleur et le chagrin demeurent, parce que pendant tous ces mois, quand ils ont dit qu'ils avaient la foi, certains ont dit qu'ils sont illuminés, ils ne se rendent pas compte. Alors, il y a quelqu'un a prononcé cette phrase quand même, ils ne se rendent pas compte de la gravité de ce qui leur arrive. Je ne sais pas comment on peut, en fait, mais bon, je referme la parenthèse. Et ensuite, ils demandent aux journalistes, précisément dans ce communiqué, de respecter leur deuil en ne se présentant pas chez eux et en ne cherchant pas à les contacter. C'est vrai pour eux, c'est vrai pour beaucoup de familles. Il y a des parents, parfois, qui ont envie, besoin, ou tout simplement qui sentent qui contactent des journalistes pour parler. En général, contacter un journaliste parce qu'on a quelque chose à dire, c'est la chose la plus simple du monde. Si par hasard les parents d'Émile ont envie de parler un jour, ils sauront trouver, d'autant que l'intégralité, je pense, des journalistes leur a écrit depuis 9 mois. Donc si aujourd'hui ils nous demandent de ne pas le faire, c'est évidemment quelque chose qu'il faut respecter aujourd'hui. Et ils ont dit dans ce communiqué ce que eux avaient à dire. Et ils ont dit des choses. Ils ont dit leur douleur, évidemment. Ils ont demandé la prière de ceux qui veulent prier. Le silence et le recueillement nécessaires, évidemment, au moment où ils apprennent, au bout de 9 mois de calvaire absolu, la mort de leur petit garçon. Et ils ont ajouté à ça le remerciement, encore notamment auprès des enquêteurs, prouvant dans ce communiqué qu'ils attendent évidemment et toujours de connaître la vérité sur ce qui est arrivé à leur petit garçon, quelle qu'elle soit. Et il faut réaliser que dans ces circonstances, on a deux manières d'obtenir, entre guillemets, des choses à dire sur cette histoire qui nous touche évidemment absolument tous. C'est un, l'enquête, et le procureur nous a expliqué qu'il n'y avait rien à dire de plus en rentrant dans certains détails qu'ils ont appris, mais globalement aucune hypothèse. Et la deuxième chose, c'est en effet la famille, et la famille a eu des choses à dire. Je note que même quand les journalistes décident d'en parler, ils n'insistent pas sur ce que les parents ont à dire, parce qu'ils ont dit des choses en l'occurrence.
Alors, ses parents très discrets. En effet, Charlotte avait pourtant pris la parole dans Famille Chrétienne, on s'en souvient, voilà quelques mois. Puis à nouveau, pour supplier quiconque saurait quelque chose sur leur fils, cette fois par un communiqué.
Alors, c'est vrai qu'ils avaient parlé assez rapidement. Ils avaient pris en considération, ils l'avaient expliqué. C'était assez courageux d'ailleurs, vu la situation dans laquelle ils étaient. Mmh. Ils avaient pris en considération l'émotion justement d'une infinité de Français, d'un pays tout entier. Ils avaient pris la parole. Certains leur reprochaient de ne pas la prendre. Je pense que là encore, il faut quand même ne pas se mettre à leur place pour ne pas comprendre qu'ils n'aient pas forcément des choses à dire en fait dans l'attente atroce et la situation dans laquelle ils étaient. Ils avaient fini par prendre la parole, notamment pour répondre à certaines accusations, notamment pour faire une mise au point à la fois sur ce qu'ils étaient, sur l'état de leur douleur et sur l'état de ses parents, on va dire, dans la douleur qui était la leur. La deuxième fois qu'ils avaient pris la parole, c'était là à destination d'un éventuel ravisseur ou de quiconque saurait quelque chose sur leur fils. C'était le jour de l'anniversaire d'Émile. Et là, ils avaient fait un appel clairement pour, en disant « Soit notre enfant est mort et vous le savez, et par pitié, offrez-nous une sépulture pour nous recueillir et pour savoir ce qui est arrivé à Émile. Soit il est vivant et par pitié, prenez pitié de nous », précisant qu'il ne cherchait même pas, en l'occurrence, si le petit Émile était vivant, à comprendre, à poursuivre. Ils voulaient simplement retrouver leur enfant, mort ou vivant, et mettre un terme à cette attente absolument insupportable. Donc, ils avaient répondu aux commentaires franchement honteux qui avaient accompagné leur calvaire. On en avait d'ailleurs déjà parlé ici. Et adressé aux Français de bonne volonté une explication sur ce qu'était leur foi, sur ce qu'était leur foi, notamment dans ce calvaire-là, sur ce qu'elle représentait et leur manière, et ce que ça changeait, on va dire, pour eux, dans leur manière de vivre ce chemin de croix. Deuxièmement, évidemment, ils allaient supplier pour essayer de retrouver leur petit garçon. Et cette fois-ci, ils donnent le ton de la manière dont ils veulent vivre cette période, c'est-à-dire dans le silence, au moins le silence en ce qui les concerne. Et ils redisent, ce qui n'est pas inutile apparemment de rappeler, que leur douleur est évidemment immense, qu'ils espéraient eux aussi, et un peu comme tout le monde, je pense, que leur petit garçon soit retrouvé un jour vivant, mais également leur espérance sur le terrain justement de cette foi. Et ils le disent, il y a deux terrains en réalité, ils l'expliquaient très bien dans leur interview la dernière fois, il y a deux terrains sur lesquels ils vivent. Il y a un terrain humain que nous partageons tous, qui est celui de la douleur, mais également du remerciement, et j'insiste là-dessus parce que ça prend une large part dans leur communication à chaque fois, le remerciement de tous les gens qui ont été présents. Et il y a un autre terrain qui lui est surnaturel, qui n'enlève rien au terrain humain, qui est ailleurs et qui est en l'occurrence celui de l'espérance. Le jour de Pâques, ils ont quand même appris qu'on avait retrouvé le crâne de leur petit garçon en allant à la messe de Pâques, qui est la fête pour les catholiques où la vie surplombe la mort. Donc on peut imaginer que pour eux, ça a été un moment particulièrement significatif. Donc s'il y a des choses à dire, en l'occurrence, c'est ce qu'ils nous ont demandé de dire. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas le comprendre, mais si on veut absolument dire quelque chose sur le calvaire de ses parents, alors on peut au minimum expliquer comment eux vivent précisément ce drame.
Il est vrai que cette famille très catholique a fait couler beaucoup d'encre, notamment sur ce pan de leur portrait. Eux-mêmes reviennent sur ce terrain-là au moment de prendre la parole. Ils sont revenus sur ce sujet.
Oui, parce que en effet, et à chaque fois qu'ils l'ont fait, ils ont, eux, ce qu'ils veulent dire. Ils ont la conviction que c'est le seul terrain sur lequel ils ont envie de vivre à la fois l'attente précédemment et aujourd'hui sur le terrain de l'espérance que eux se situent. Donc puisqu'on leur demande à eux de parler, eh bien ce sont eux qui parlent. Et au moment où ils avaient donné leur interview à Famille Chrétienne, ils avaient expliqué quelque chose. Ils avaient dit « Nous étions conscients que la plupart des journalistes ne sont pas en mesure de comprendre le monde catholique. Ils ne saisissent pas toujours le sens des mots. Tout peut être déformé, compris de travers, voire volontairement caricaturé. » Et à l'époque, la maman, dans cette interview, s'était dit extrêmement touchée que des gens imaginent que leur douleur était moins forte parce qu'ils avaient la foi. Donc en effet, ils ont séparé. Il y a des gens qui comprennent mal, parce qu'en effet, le pays comprend mal, on va dire, les choses qui relèvent de la foi parfois. Et ils accusaient aussi certains de volontairement caricaturer ou déformer ce qu'ils disaient. Se sont ensuite mêlés dans ces 9 mois des affaires à la fois de famille, de justice, des accusations, des convictions religieuses, à des options politiques prises ici ou là, parfois dans le passé, dans une confusion absolue. Et là, il ne s'agissait pas, et je reprends ce que disait Mathieu tout à l'heure, il ne s'agissait pas d'essayer de trouver des moyens de comprendre ce qui s'était passé, parce que ça n'avait rien à voir. Si ça avait pu éclairer d'une quelconque manière ce qui était arrivé à Émile, ça aurait pu être légitime, même si c'était difficile. En l'occurrence, personne n'était capable de faire ce lien-là. Donc là, en l'occurrence, accuser ou trouver des choses à dire extrêmement désagréables sur les parents, les grands-parents, la famille, les voisins dans le village, simplement pour pouvoir continuer à parler de ce drame, alors là, je pense que le mot récupération est adapté, je précise. Et la dernière chose, évidemment, leur invocation de Dieu est sans doute très mal comprise, puisque aujourd'hui, dans un pays très déchristianisé qui a perdu très largement la foi, Dieu est souvent convoqué. Vous savez, quand il y a le mal devant nous, on s'est dit, mais où est Dieu ? C'est quasiment le seul moment où finalement on le cherche un peu. Eux font une lecture inverse. Dieu est central dans leur vie, et quand le mal se présente devant eux, ils invoquent Dieu pour lui demander de l'aide. Alors évidemment, il y a une grosse incompréhension, mais je pense qu'au minimum, on peut respecter, on va dire, puisqu'on leur demande la parole et qu'on veut savoir, respecter ce qu'eux ont à dire ce jour-là. Et eux espèrent que la vie reprendra le dessus sur la mort de leur petit garçon.
Merci beaucoup Charlotte Dornelas. Mathieu Bocoté, l'école catholique est de nouveau ciblée. Un rapport piloté par un député de la France insoumise, Paul Vannier, auquel est associé le député Renaissance, mène la charge contre elle et inquiète ses responsables. Officiellement, il s'agit de l'obliger à rendre davantage de comptes et de ficher en fait le financement du public vers le privé.
Oui,
officiellement.
Alors, mais voilà, le mot important est officiellement ici, parce qu'on nous dit l'essentiel, c'est avoir une plus grande transparence, une plus grande responsabilité dans les comptes, parce qu'il y a de l'argent public qui est investi là-dedans. Et de ce point de vue, on peut dire effectivement, dès qu'il y a un centime d'argent public, c'est-à-dire d'argent pris aux Français pour le donner à quelque chose, il est nécessaire d'avoir le plus grand sens des responsabilités. Mais l'enjeu ici, la question de la transparence des comptes, n'est qu'un prétexte, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, quand on fouille un peu le dossier, qu'est-ce qu'on voit? C'est que le véritable enjeu, c'est la légitimité même de l'école catholique, de l'école libre, de l'école privée, plus largement, en fait, de cette école qui est accusée toujours de se soustraire au parcours de socialisation républicain officiel. Qu'est-ce qu'on reproche? C'est la fameuse question de la mixité. La mixité sociale, on accuse les écoles libres, catholiques, tout ça, privées, de se dérober aux exigences de la mixité. Et ça, ce serait mixité sociale, mais qui est dans les faits mixité culturelle. Et ça, ce serait très, très mal. J'aimerais simplement faire un plaidoyer un instant pour rentrer dans l'esprit de ceux qui disent qu'il y a des limites à la mixité, et je m'explique. Ce qu'on cherche à dire par là, c'est que les conditions de la transmission culturelle dans une classe, hein, un maître, un contenu, des élèves, la condition de la transmission, c'est qu'il y ait déjà un début de monde partagé. Parce qu'on a une langue en commun, parce qu'on a un minimum d'imaginaire en commun, il est possible de transmettre. Si vous êtes dans une classe où, par exemple, vous avez un trop grand nombre de cas problèmes, soit par le comportement, soit vous êtes dans une classe où une partie des élèves ne parle pas français, tout simplement. Ce sont des choses qui existent, qui arrivent. Si vous êtes dans une classe où la disparité de la classe est telle que le professeur ne peut plus transmettre ou enseigner, il doit tout simplement faire de la discipline, ramener l'ordre, faire ce qu'il peut pour transmettre un peu de matière, eh bien, l'école ne peut pas faire son travail. Donc, derrière la question de la mixité, il y a la question de la possibilité de la transmission. Mais ça, on n'en parle à peu près jamais, parce que jamais le multiculturalisme ne doit causer problème. Il y a aussi cette idée, je reviens dans un instant, une partie de la l'idéologie républicaine au sens radical, ce n'est pas qu'un régime. C'est une idéologie qui veut fabriquer son homme nouveau à elle. Or, l'homme de l'héritage, l'homme de la transmission, l'homme de la culture, l'homme porté par l'anthropologie catholique, qu'on voit, on l'a vu au moment de l'école Stanislas, eh bien, ça cause problème. Ça cause problème parce qu'il n'est pas porteur de la même anthropologie que celle portée par l'idéologie républicaine version Vincent Peillon. Or, qu'est-ce qu'on a dans de telles circonstances? Eh bien, on a cette idée qu'il faut en finir avec cette école dissidente qui est un résidu de l'histoire et qu'on pourrait un jour balayer.
Très rapidement, pour vous, c'est l'école libre, en fait, qui est visée.
Oui, en fait, c'est l'école libre, c'est l'école privée, c'est l'école catholique. C'est tout ce qui se dérobe au circuit officiel de socialisation et de resocialisation. Vous notez que la société au grand complet s'est transformée aujourd'hui en camp de rééducation à ciel ouvert. Dans la publicité, dans les communications, au cinéma, à la télé, un peu partout, il y a un même message qui est toujours tambouriné sur le mode « pensez tous la même chose ». Et si vous ne pensez pas la même chose, vous finissez par être coupable de délit d'opinion. Pourquoi on en veut à l'école libre, catholique et ainsi de suite? Parce qu'elle porte justement, elle dérobe pour un instant les enfants, une génération, au contrôle idéologique dominant. Ça, d'autres valeurs risquent de s'y glisser. Ça peut causer problème pour certains. Et à travers ça, je pense que la vraie question, à terme, c'est la question de l'autorité parentale qui se joue à travers la question de l'école. Souvent, l'école libre est plus connectée aux familles. On continue de penser dans une certaine gauche que la famille demeure le problème. L'autorité parentale demeure le problème. Les vrais experts sont les autres. Eh bien, de ce point de vue, est-ce qu'on pourra en finir un jour avec ce compromis hier accordé, mais demain peut-être révoqué, l'existence d'une école qui ne récite pas tout simplement le credo officiel qu'on lui demande de réciter?
Merci beaucoup, mon cher Mathieu. Juste avant de refermer, un mot quand même à cette édition pour saluer la mémoire de Maryse Condé, cette grande voix de la littérature francophone guadeloupéenne qui a marqué l'histoire des Antilles et de la France aussi, au sens plus large. C'était éteinte à l'âge de 90 ans dans le Vaucluse hier. J'ai été éduquée par des parents qui croyaient en la France et étaient convaincus que la France était le meilleur endroit au monde. Emmanuel, une citation de Maryse Condé. Emmanuel Macron lui a rendu hommage. Géante des lettres, Maryse Condé a su peindre les chagrins et les espoirs de la Guadeloupe à l'Afrique, de la Caraïbe à la Provence. Excellente suite de programme à tous. Merci de votre attention. L'heure des pros avec Pascal Pro.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.